RFI, il est 13h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Et Afrique Midi, c'est avec vous Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Alban et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce midi, on fait un point complet sur la situation dans l'est de la RDC alors que le M23 est entré hier dans Kamanyola. Le groupe armé soutenu par le Rwanda continue son avancée vers le sud et la ville d'Uvira. Au sommaire, également le leader du Forum des Forces Sociales de Guinée, enlevé dans la nuit à son domicile. Cette figure de la société civile est l'une des voix les plus critiques du pouvoir. On reconstitue le film de son enlèvement dans un instant. Le projet de taxe au Mali est-il illégal? C'est ce que dit un ancien Premier ministre, vous l'entendrez. Et puis la mission de l'ONU pour le Soudan du Sud, préoccupée par les combats ces derniers jours dans le pays.
Des combats qui pourraient menacer l'accord de paix entre le président Salva Kiir et l'opposition. On en parle avec votre invité après ce journal.
Afrique Midi, vous avez le programme, bienvenue. Après l'occupation de Goma, puis celle de Bukavu ce week-end, les combattants de l'AFC M23 ont pris le contrôle de la cité de Kamanyola. Et le groupe armé, soutenu par le Rwanda, selon les experts onusiens, poursuit son avancée direction Uvira, plus au sud. Bonjour Patient Ligodi.
Bonjour Arthur.
Des tirs sporadiques ont été signalés dans plusieurs autres localités environnantes, y compris donc à Uvira, ville située sur les rives du lac Tanganyika.
Après avoir quitté Kamanyola, les combattants de l'AFC M23 sont arrivés hier à Louvungi sur la route nationale numéro 5 à seulement 15 km de leur point de départ. Avant leur arrivée, des scènes de pillage ont été signalées. L'inquiétude gagne désormais les localités plus au sud, notamment à Sangé et Kiliba, sur la route qui mène à Uvira, l'autre grande agglomération du sud Kivu. À Uvira même, des tirs se sont poursuivis ce matin. Selon des témoignages sur place, des pillages ont eu lieu donc, impliquant des hommes armés, parmi lesquels des milices locales et certains militaires. La situation reste très tendue dans cette ville enclavée entre les collines et le lac Tanganyika. Et ce matin, certains habitants ont rejoint les ports d'Uvira, essayant de quitter l'agglomération par bateau en direction de Kalemie, chef-lieu de la province de Tanganyika. Pour l'heure, les combattants de l'FC M23 n'ont pas encore atteint Uvira, mais l'incertitude continue de régner dans cette région.
Patient Ligodi en direct dans Afrique Midi. Côté diplomatique pendant ce temps, Félix Tshisekedi était hier à Luanda. Le président congolais a rencontré son homologue angolais, João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. De cet échange très peu à filtrer, on n'en sait plus en revanche sur la visite de l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi au Tchad. Didier Mazenga était hier à N'Djamena. Objectif, selon une source proche du dossier, demander une aide militaire au Tchad, Victor Moria.
Une aide militaire sous toute forme, voilà la demande adressée par Félix Tshisekedi à son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby. Selon une source proche du dossier, l'envoyé spécial du président congolais venu à N'Djamena mardi à la mi-journée portait ce message au chef de l'État tchadien. Le président congolais, dont une avenue porte désormais le nom dans la capitale N'Djamena, est dit très proche des autorités tchadiennes depuis son rôle de facilitateur de la communauté des États d'Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique tchadienne. Le 9 février dernier, Mahamat Idriss Déby exprimait ainsi dans un communiqué sa solidarité avec le peuple congolais et son président, tout en appelant au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En conséquence, et toujours selon cette même source, la demande de soutien militaire est donc examinée par N'Djamena, qui souhaite toutefois respecter les voies légales, qu'elles soient nationales ou internationales, tout en privilégiant l'option du dialogue conformément aux résolutions du sommet conjoint des chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Cette avancée du M23 soutenue par le Rwanda est condamnée, vous le savez, par de nombreuses chancelleries occidentales. Londres a convoqué hier le plus haut diplomate rwandais dans le pays, parlant, je cite, de violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a adopté une position similaire et cela suscite la colère de Kigali. En réponse, Lucie Mouillot, le Rwanda a décidé de suspendre sa coopération de développement avec la Belgique.
Selon le communiqué du gouvernement, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC, visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement. Kigali décide donc de la suspension du reste du programme d'aide bilatérale avec Bruxelles pour la période 2024 à 2029. Le Rwanda ne se laissera ni intimider, ni faire chanter au détriment de sa sécurité nationale, affirment les autorités. Une décision décision dont a pris acte la Belgique. Selon un message de son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, Bruxelles était déjà en train de revoir son programme d'aide suite à la violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Ceci aurait débouché, poursuit-il, sur des mesures relatives à notre coopération que le Rwanda anticipe à présent. La Belgique défendait déjà à l'Union européenne la mise en place de sanctions contre Kigali pour son implication dans le conflit. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues depuis ces dernières années. Aucun ambassadeur rwandais n'a été désigné en Belgique depuis 2023 et le refus des autorités de Bruxelles de la nomination de Vincent Karega en mesure de réciprocité, le poste d'ambassadeur belge au Rwanda est lui aussi vacant depuis juillet 2024. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
L'avancée du M23 dans l'est de la RDC et ce renforcement des forces ougandaises sur place, des troupes déployées depuis plusieurs années dans le cadre d'un accord entre les deux pays, et depuis plusieurs jours, les deux armées travaillent pour, je cite, harmoniser leurs actions dans le cadre de l'opération Shujaa. Détail à lire sur RFI.fr. L'Ouganda, où plusieurs figures de l'opposition ont donné 48 heures au président pour relâcher Kizza Besigye, l'opposant historique derrière les barreaux depuis le mois de novembre. Hier, Yoweri Museveni est sorti du silence. Il a rappelé les accusations qui pèsent sur l'opposant, à savoir possession illégale d'armes à feu avec l'intention présumée de menacer la sécurité nationale. Toujours en Ouganda, l'épidémie d'Ebola est contenue, c'est ce que déclare aujourd'hui la ministre de la Santé après la guérison de 8 patients. Ils ont quitté l'hôpital de Kampala. À l'écoute de RFI, il est 12h36 en temps universel. C'est au moins le 5e enlèvement en 7 mois en Guinée. Cette nuit à Conakry, Abdoul Sako a été embarqué par des individus masqués et en uniforme. Ils ont forcé l'entrée de son domicile. Cette figure de la société civile, coordinateur national du Forum des Forces Sociales, est l'une des voix les plus critiques de la transition dans le pays. Bonjour Sidi Yansané.
Bonjour Arthur.
Les ravisseurs d'Abdoul Sako ont fait preuve d'une rare violence.
Oui, cette nuit vers 4h du matin, au moins 3 véhicules pick-up se garent au quartier Kiroti de la commune de Lambagny, dans la banlieue de Conakry. Des individus, pour certains cagoulés et en uniforme militaire, interrogent les voisins. Ils leur tendent la photo d'Abdoul Sako et leur ordonnent fermement d'indiquer le domicile du militant. Après avoir repéré le lieu, les kidnappeurs tentent de forcer l'entrée, mais la porte métallique résiste. Ils décident donc de percer une brèche dans le plafond de la terrasse extérieure afin de se faufiler dans les combles de la maison et forcer leur chemin jusque dans le salon de la famille Sako. Les individus sortent le militant de son lit, le ligotent sous les yeux de sa mère, son épouse et leurs enfants avant de convoyer Abdoul Sako vers une destination toujours inconnue à cette heure. Il y a un mois, le Forum des Forces Sociales annonçait déjà faire l'objet de menaces et se disait surveillé, poussant ses avocats à déposer une plainte contre X. Le mode opératoire est similaire aux enlèvements des militants Fonike Menge et Biloba, du journaliste Habib Marwan Kamara et de l'ancien secrétaire général du ministère des Mines, Sadou Nimaga, toujours porté disparu.
Et on continuera évidemment à suivre tout cela avec vous. Merci Sidi Yansané en direct dans Afrique Midi. Le projet de nouvelle taxe au Mali est-il injuste pour le vin? C'est l'interrogation des acteurs du secteur. Alors que ce projet continue de faire réagir dans le pays, le gouvernement de transition le présente comme une contribution populaire pour financer des projets de développement. David Bachet, certaines voix s'élèvent donc et soulignent l'inégalité de traitement que cela instaure entre la bière et le vin.
La contribution spéciale sur l'alcool s'élève à 1000 francs par litre pour les boissons produites au Mali et contenant entre 6 et 15 degrés d'alcool. 3000 francs par litre au-delà de 15 degrés. Ces taxes, qui doublent pour les boissons importées, ciblent donc directement le vin et les alcools forts, whisky, vodka, rhum et la bière. Son taux avoisinant les 5 degrés pour les marques les plus consommées l'exclut de fait de ces nouvelles taxes. Surprenant pour la boisson alcoolisée la plus prisée. Injuste, estiment plusieurs opérateurs du secteur qui, sous couvert d'anonymat, déplorent que la masse des buveurs de bière ait été préservée au détriment de leur propre activité. Mais les nouvelles taxes ne concernent pas que les boissons alcoolisées. Les Maliens seront désormais prélevés à chaque recharge de crédit téléphonique et à chaque transfert d'argent par mobile monnaie. Des dispositions adoptées par ordonnance en vertu d'une loi d'habilitation qui offre cette possibilité au gouvernement pour 5 domaines précis. L'ancien Premier ministre Moussa Mara s'interroge.
La prise de taxes ne figure pas parmi ces 5 catégories. Il aurait fallu que la loi d'habilitation le précise, ou en en tout cas, que le gouvernement laisse le Parlement se saisir d'un dossier aussi important. La légalité des différentes ordonnances, elle est vraiment questionnable.
Sollicité par RFI sur ce point, la primature n'a pas souhaité commenter.
David Bachet, arrêté pour un poème et inculpé pour incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État au Togo. L'audience devant la chambre d'instruction cour d'appel de Sokoporkofi Sitrophé s'est ouverte ce matin. L'artiste est détenu depuis un mois à la prison civile de Lomé. En cause, un texte intitulé « Fait à part » qui aborde les thèmes de l'oppression, de l'arbitraire et de l'injustice. Vous l'entendez depuis le début de la semaine sur RFI. Le nord du Bénin est confronté depuis le début de l'année à des attaques djihadistes. Samedi dernier, une position de l'armée béninoise a été attaquée dans le parc du W. Le mois dernier, le JNIM revendiquait un assaut qui a fait plus de 30 morts dans la zone dite du point triple à la frontière entre le Niger, le Bénin et le Burkina. Alors, comment faire face? En tout cas, selon nos informations, le général de division Fructueux Baguidi est en déplacement dans le nord du pays depuis hier. Jean-Luc Aplogan, rien n'a filtré, ni sur les raisons, ni sur la durée de ce séjour.
C'est son deuxième déplacement en deux mois. Il y était fin décembre. Le lien est vite fait entre les dernières attaques terroristes dans les communes de Banikouara et de Karimoman. 35 soldats tués au point triple le 8 janvier, 6 autres le 14 février, selon des sources béninoises, et 8 revendiqués par le JNIM. Enfin, une attaque à Tamaloussi le 21 janvier dernier. On l'a appris ces derniers jours seulement. Elle aurait fauché 5 militaires. Pas de détails sur les ripostes et le nombre de terroristes tués. Une quinzaine selon un haut gradé sur l'attaque du jour de la Saint-Valentin. Depuis le coup dur du 8 janvier, le dispositif a été revu et réajusté. On apprend qu'une attaque a été repoussée lundi. L'ennemi aurait changé de stratégie, confient certains spécialistes. Selon nos informations, des experts étrangers sont à Cotonou depuis dimanche pour auditer le dispositif Mirador. Il restera à conclure avec le Burkina et le Niger une collaboration et une stratégie commune. Patrice Talon s'est même rendu au Burkina en février 2023 pour le demander. Aujourd'hui, les relations sont tendues avec les deux pays. En revanche, tout va bien avec le Togo. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Le Burkina Faso, lui aussi confronté à la menace djihadiste. Hier, mardi, des hommes armés ont attaqué plusieurs postes au sud et au nord de la ville de Djibo. Au moins 6 soldats ont été tués et plusieurs assaillants neutralisés selon une source sécuritaire. Source qui ajoute que les assaillants sont repartis avec du matériel des forces de défense burkinabé. Les détails à lire sur notre site RFI.fr. Manque de personnel, dégradation des conditions de travail. Au Sénégal, les médecins tirent la sonnette d'alarme. Ils sont en grève pour 48 heures. Cela fait plusieurs semaines que les professionnels alertent les autorités et cette fois, ils comptent bien se faire entendre. Reportage à l'hôpital de Fan, signé Léa Lisa Vesteroff.
Des couloirs quasi vides, dans le département de neurochirurgie de cet hôpital du centre-ville, seules les urgences sont assurées. Les médecins en grève, comme le professeur Mbaye Thioub, neurochirurgien, ils dénoncent une dégradation dangereuse des conditions de travail.
Moi, je suis surtout spécialisé dans le traitement des maladies neurovasculaires. Et aujourd'hui, même les clips pour traiter les anévrismes, voilà, on n'en a pas. On attend une commande qui n'arrive pas. Donc voilà, c'est une situation de précarité. Surtout, c'est une situation qui est d'insécurité.
Une situation de plus en plus fréquente, à en croire docteur Omar Guindo, médecin en santé publique au ministère de la Santé. Il cite l'exemple de la radiothérapie contre le cancer.
Actuellement au Sénégal, il n'y a qu'une seule radiothérapie qui fonctionne pour le cancer. Il n'y en avait que deux. Celui dans le jam est en panne. Actuellement, c'est celui de Touba qui fonctionne. Il y a des rendez-vous jusqu'à 4-5 mois, vous imaginez. Il faut vraiment que l'État fasse des efforts dans ce sens-là.
Des efforts pour améliorer l'équipement des hôpitaux publics, mais aussi pour recruter ce que l'État ne fait pas. Docteur Omar Guindo.
Ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu de recrutement de jeunes médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. Et alors qu'il y a un gap énorme, le besoin est là.
Un besoin estimé à 18 000 médecins pour les hôpitaux publics du pays. Des infrastructures de santé, là encore, en nombre insuffisant, selon le syndicat autonome des médecins, qui plaide pour une répartition plus équitable des soins sur l'ensemble du territoire et une réponse du gouvernement à ces deux après 7 réunions avec les nouvelles autorités. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
La guerre au Soudan et l'Union africaine qui dénonce aujourd'hui, je cite, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le pays. La guerre qui dure depuis près de 2 ans entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée régulière a déjà fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés dans le pays. C'est la pire crise humanitaire au monde, disait même la semaine dernière l'Union africaine. Plus au sud, au Soudan du Sud, l'accord de paix de 2018, seule voie vers la paix durable. C'est ce que dit la mission des Nations Unies dans le pays, la MINUS, qui a évoqué hier des combats meurtriers dans les états du Haut-Nil, c'est au nord-est, et d'Équatoria occidentale au sud-ouest. Affrontements entre les forces armées fidèles au président Salva Kiir et celles loyales au vice-président Riek Machar. Écoutez la porte-parole de la MINUS, Priyanka Chaudhuri.
La mission des Nations Unies au Soudan du Sud est profondément préoccupée par les affrontements à Nassir dans le Haut-Nil. Les 14 et 15 février, une série d'échanges violents ont eu lieu entre les forces de défense du peuple du Soudan du Sud et des jeunes armées à Nassir, avec l'utilisation d'armes lourdes qui auraient entraîné des morts et des blessés parmi les civils ainsi que parmi le personnel armé. Une patrouille de la MINUS, prévue à l'avance, a également été touchée par les combats, un casque bleu ayant été blessé lors d'un tir de mortier. Nicolas Essam, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUS, a déclaré « J'exhorte toutes les personnes impliquées à faire preuve de retenue et à rétablir immédiatement le calme. Je condamne également fermement toute violence contre nos casques bleus. La situation dans les deux régions souligne l'importance cruciale du déploiement complet et rapide des forces unifiées nécessaires conformément à l'accord de paix. »
La porte-parole de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, au micro RFI de Florence Mietto. Ces combats au Soudan du Sud, on y revient dans quelques minutes avec notre invitée, la docteure en sociologie politique en post-doctorat à l'EHESS et l'Institut des Mondes Africains, Emmanuel Veuillet. Mais d'abord, un mot de football avec cette affiche de rêve ce soir en Ligue des Champions, Real Madrid-Manchester City. Il y a une semaine, les Espagnols l'ont emporté face aux Sky Blues. Alors pour Manchester, pas le choix, il faut s'imposer au Bernabéu. Et pour y arriver, Cédric De Oliveira, il compte sur l'une de leurs recrues cet hiver, l'Égyptien Omar Marmouche.
75 millions d'euros d'indemnité de transfert, puis 4 matchs sans marquer. Les supporters de Manchester City ont d'abord été circonspects lorsqu'ils ont vu débarquer Omar Marmouche au sein de l'effectif pléthorique de Pep Guardiola. Mais après son triplé en 33 minutes ce week-end en Première Ligue face à Newcastle, l'Égyptien a sans doute rassuré beaucoup de monde, y compris son entraîneur.
Les louanges sont pour lui. 3 buts, c'est mérité, on le savait. À Francfort, il marquait déjà beaucoup, donc on savait que tôt ou tard, s'il reproduisait le même type de performance, il pourrait montrer qui il est vraiment. Il peut donc recevoir les compliments et je pense que ça va continuer pour lui.
En manque de confiance depuis plusieurs mois, City a bien besoin de l'efficacité du Kerot qui avait marqué 20 buts en 24 matchs de Bundesliga avant de quitter Francfort cet hiver. Marmouche doit maintenant montrer sa valeur en Ligue des Champions alors qu'il découvre à peine la compétition, estime Dan Perez, journaliste spécialiste des questions tactiques au journal L'Équipe.
Est-ce que c'était le bon choix pour City de prendre un joueur comme ça, l'excellent Égyptien, mais qui n'a pas de référence en Ligue des Champions? C'est un pari, on ne sait pas. C'était pas le choix le plus évident pour performer immédiatement.
Après avoir joué une poignée de minutes à l'Etihad Stadium il y a 8 jours, Marmouche avait assisté impuissant aux 2 buts donnant la victoire au Real en fin de match. Son efficacité pourrait être précieuse à Santiago Bernabéu pour aider City à tout renverser. Cédric De Oliveira, Madrid, RFI.
Real Madrid, Manchester City, coup d'envoi à 20h, temps universel et à affiche exceptionnelle, dispositif exceptionnel sur la radio du monde. Match à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne, prise d'antenne à 19h40, temps universel à suivre également ce soir, PSG Brest ou encore Borussia Dortmund Sporting Portugal. Il est midi 48 en temps universel. Voilà pour le journal et on fait tout de suite le point sur les principaux titres de l'actualité internationale avec vous, Alban Le Prince.
Et en France, ça s'est joué à une voix près. Le Parlement a finalement approuvé ce midi la nomination de Richard Ferrand, proche parmi les proches d'Emmanuel Macron à la présidence du Conseil constitutionnel. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, accuse son homologue américain de vivre dans un espace de désinformation russe. Déclaration au lendemain d'une réunion organisée à Riyad entre chefs de la diplomatie américaine et russe et après les vives critiques de Donald Trump qui a affirmé que l'Ukraine était responsable de la guerre avec la Russie. Le président américain et Vladimir Poutine censés se rencontrer bientôt, toujours sans les Européens, mis à l'écart des négociations de paix. Résultat, 2 jours après son sommet organisé à Paris, Emmanuel Macron convoque cet après-midi une nouvelle réunion avec des dirigeants européens et non européens. Au Proche-Orient, le Hamas se dit prêt à l'instant à libérer tous les otages restants en un seul échange pendant la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Deuxième phase qui devrait être négociée. Une frappe israélienne a fait un mort aujourd'hui dans le sud Liban. Un décès au lendemain du retrait partiel de l'armée israélienne de la région qui a tout de même maintenu ses troupes sur 5 positions. On en parlait il y a quelques minutes. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS, se dit préoccupée par les combats dans les états du Haut-Nil, au nord-est et d'Équatoria occidentale au sud-ouest. Des affrontements entre les forces fidèles au président et celles fidèles à l'opposition qui font craindre un retour de la guerre civile dans le pays. Vous en parlez avec votre invité Arthur.
Bonjour Emmanuel Veuillet.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sociologie politique en post-doctorat à l'EHESS et l'Institut des mondes africains. Alors, ces combats, ils interviennent dans un contexte politique toujours très compliqué, hein, au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir a récemment limogé des responsables, parmi eux deux officiels occupant des postes attribués au parti de l'opposant, Riek Machar. Est-ce que, selon vous, cela menace l'accord de paix signé en 2018?
Clairement, on est dans un contexte, disons, d'incertitude assez forte. C'est-à-dire que aujourd'hui, les changements politiques et militaires qui ont eu cours dans le pays ces derniers mois inquiètent et à raison, car en fait, on est déjà sur un accord de paix qui a duré, qui n'a pas été mis en place, c'est-à-dire depuis sa signature en 2018, énormément des provisions qui étaient censées prendre place n'ont pas été mises en place et c'est pourquoi ils ont encore une fois rééchelonné pour pouvoir encore gagner du temps de transition, c'est-à-dire là encore repousser à 2 ans les prochaines élections.
Les élections étaient prévues en décembre dernier et elles ont été repoussées à 2026.
Exactement. Et là, en fait, c'est ce dernier délai de 2 ans donc qui prend cours à partir de la fin d'année passée, c'est-à-dire fin 2024 jusqu'à 2026. On voit en fait que se sont accélérés les incidents et les différents politiques au plus haut, c'est-à-dire autour même du président et même au sein de son parti. C'est-à-dire que depuis 3 mois, on a une sorte de succession de décrets présidentiels qui à la fois changent les personnes qui étaient à la tête des services de sécurité, mais aussi à la tête du parti, comme dans des positions aussi importantes que vous l'avez noté, comme vice-président ou des ministres, qui du coup amène une certaine incertitude sur qu'est-ce qui en fait se prévoit au plus haut de l'État. Plusieurs de ces décrets présidentiels aussi vont à l'encontre de l'accord de paix, au sens où il y a des positions au sein du gouvernement qui sont dédiées et gardées pour certains partis politiques. Et on voit que là aussi, au travers des décrets présidentiels, certaines de ces positions sont passées du parti de l'opposition vers le parti du gouvernement, ce qui a créé encore une fois énormément de mécontentement du côté de l'opposition.
Justement, du côté de l'opposition, ces décisions, ces purges, hein, on peut le dire ainsi. Certains y voient une volonté de Salva Kiir de préparer sa succession. Est-ce que c'est comme ça que vous l'analysez aussi?
C'est vrai que cette analyse est pertinente au sens où on voit bien que là, par la nomination récente la semaine passée d'un nouveau vice-président, Benjamin Boulmel, à la place de Wani Higa, qui est une figure historique à la fois du parti SPLM, hein, de plus loyal, aussi allié de Salva Kiir, ça manie les cartes d'une certaine manière où le président ne suivrait plus forcément à la fois les règles de séniorité politique ou les règles de séniorité militaire et à l'inverse essaierait de placer les personnes qui lui sont le plus proches et là en l'occurrence Benjamin Boulmel qui est...
C'est une personnalité sulfureuse en tout cas puisqu'il est accusé les États-Unis d'avoir perçu plus de 3 milliards et demi de dollars de contrats publics pour construire des routes qui n'ont jamais été terminées.
En plus d'être un mania économique accusé de collusion politique économique avec le pouvoir et aussi une des personnes de la belle famille de Kiir. Donc c'est vrai que ce serait une accusation en plus de favoriser une sorte de népotisme qui n'est pas non plus inconnue au président jusque-là. Et donc ça divise au sein du camp présidentiel en fait. Ça divise au sein du camp présidentiel, ça divise au sein du parti. En plus, des divisions et des mécontentements qui aussi grossissent dans les rangs de l'opposition, qui se sent totalement silencieux et pas du tout prise en considération, avec une remise en cause constante en fait des modalités de l'accord de paix.
Ces combats justement, ils interviennent aussi alors que les discussions de paix ont repris à Nairobi au début de l'année. C'est l'initiative pour la paix Tumaini, espoir en Swahili. Ces discussions sont régulièrement reprises puis suspendues selon les désaccords. Le Kenya assure la médiation. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Nairobi?
Nairobi et le processus de paix qui a été débuté à Nairobi était à la fois vu avec beaucoup de scepticisme et même de la part de l'opposition comme quelque chose qui n'allait pas forcément favoriser la mise en place de l'accord de paix d'ores et déjà signé, mais plutôt qui allait favoriser encore une fois un retard. Maintenant, on voit que Tchouaméni, d'une autre part, pourrait apporter aussi des changements positifs en réintégrant au sein de l'État différents partis politiques qui étaient partis en exil, certaines forces armées aussi d'opposition qui étaient jusque-là en rébellion, en opposition à l'État. C'est difficile de savoir si ça va vraiment pouvoir porter ses fruits et amener les réformes espérées. En tout cas, l'agenda porté par les forces politiques de l'opposition présente à Nairobi, c'est celui vraiment de la réforme et de la mise en place d'un accord. Maintenant, est-ce que cela va se faire ou est-ce que cela va pas apporter plus de confusion et encore une fois rediviser les différents camps politiques? C'est ça qui aussi crée encore plus d'incertitudes et de peur du côté de la population, mais des forces politiques en présence.
Et on continuera évidemment à suivre tout cela sur l'antenne de RFI. Merci Emmanuel Veuillet d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie politique en post-doctorat à l'EHESS et l'Institut des mondes africains. Entretien à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Midi 55 en temps universel. Depuis le début de la semaine, RFI est dans le nord du Bénin, une zone confrontée à la menace d'attaques terroristes. Samedi dernier, une position de l'armée béninoise a été attaquée dans le parc du W. Le mois dernier, le JNIM revendiquait une attaque qui a fait plus de 30 morts dans la zone dite du point triple. Alors, dans le nord du Bénin, comment s'adapte-t-on à cette réalité? Au-delà des mesures sécuritaires, des projets y sont menés pour favoriser la cohésion sociale. Reportage à Malanville de notre envoyé spécial, Magali Lagrange.
Assis en tailleur sur un tapis en tenue bleu clair, Ibrahim Adam nous reçoit dans sa mosquée. Quand il n'est pas conducteur routier, ce prédicateur, imam à Malanville, lance des messages aux fidèles.
J'aimerais qu'on puisse savoir l'importance de la paix. Parce que tant qu'il n'a pas la paix, rien ne marche. Ta religion même, tu ne peux pas le faire à l'aise. Le commerce, zéro. C'est-à-dire l'élevage, zéro. L'agriculture, les choses par lesquelles nous vivons, tout ne peut pas marcher. Tant qu'il n'y a pas la paix.
Ibrahim Adam intervient régulièrement sur une radio locale. C'est sur des leaders religieux comme lui que s'appuient les ONG qui sensibilisent contre l'extrémisme violent. Avec l'ONG Vie et Environnement, Moussa Muntala participe à des projets, en particulier pour les jeunes.
Souvent, nous passons par les activités de lutte traditionnelle, les sketchs, les activités de football. Et nous faisons passer maintenant le message de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. La jeunesse est plus attirée par cette activité et le message passe vite.
Objet d'une attention particulière, les conflits communautaires. L'association Coexister fait de la prévention en instaurant des cadres de dialogue. L'an dernier, elle est par exemple intervenue à Garou, où un conflit entre agriculteurs et éleveurs a fait 2 morts. Abdou Karimou Bouraïma est son président.
Vous savez, les extrémistes sont des marchands de violence qui ont besoin de renforcer leur équipe. Alors du coup, ils utilisent les différentes frustrations des communautés pour leur proposer des solutions. Et ça fait que ces communautés frustrées rejoignent dans l'espoir qu'un jour, ils reviendront dans leur communauté avec plus de droits. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'injustice et ne pas se taire quand ça se passe.
Dans son bureau de la mairie de Malanville, Moussa Sambonoum affirme que le gouvernement béninois fait tout son possible pour lutter contre l'extrémisme violent. Mais le deuxième adjoint au maire identifie une difficulté à dépasser pour que toutes ces actions portent leurs fruits.
C'est celle de la méfiance installée entre les communautés et l'armée. Tant que nous n'arrivons pas à ramener la confiance, vraiment c'est un terreau favorable aux groupes criminels.
Des préoccupations entendues, affirme-t-il, par la haute hiérarchie militaire. Les forces de défense et de sécurité mènent des opérations pour se rapprocher des populations. Journées portes ouvertes ou soins gratuits par exemple. Magali Lagrange, de retour de Malanville, RFI.
Voilà pour ce troisième épisode de notre série de reportages dans le nord du Bénin, à réécouter sur RFI.fr. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'Afrique Midi, préparée et réalisée avec Michael Goncalves, Pierre Vallée et Laurent Chaffard. Merci à eux. Merci à vous de nous avoir écoutés.
La suite sur RFI, c'est le journal d'Haïti et des Amériques, sauf si vous êtes en Afrique de l'Ouest où vous attendez 30 minutes d'actualité en full day, et en Afrique lusophone pour une demi-heure d'infos en portugais.
Priorité santé. Charlie Dupiot vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
demain.
La dépression masculine, quelle particularité dans les symptômes et l'expression de la maladie?
Vendredi.
Enfants et écrans, quelles limites fixer?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet Actu de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.